Chapitre 2. La troupe du Seigneur Vitalis. Le lendemain, Barberin m'a demandé de le suivre jusqu'au village. Discrètement, Mère Barberin m'a fait comprendre que c'était sans danger. Une fois arrivés, nous sommes entrés dans un café. Pendant que Barberin expliquait au patron qu'il allait demander au maire une pension pour m'élever, j'ai remarqué, près de la cheminée, un vieil homme avec une longue barbe et de longs cheveux. Il portait une veste en peau de mouton et un chapeau avec des plumes colorées. Sous sa chaise se serraient trois chiens. Soudain, le vieil homme s'est adressé à Barberin. Il avait un accent étranger.
« Je doute que le maire vous donne une pension pour cet enfant. Alors, il ira à l'orphelinat. Aucune loi ne m'oblige à le garder. Si vous ne voulez plus le nourrir, donnez-le-moi. Vous donnez un bel enfant comme lui ? Viens ici, Rémi. »
Je me suis approché en tremblant. Tout en écoutant Barberin vanter ma force et ma bonne santé, le vieil homme tâtait mes bras, mes jambes, et répondait que j'étais bien trop maigre. Le marchand qui était venu pour la roussette avait dit la même chose de notre vache. Il l'avait pourtant achetée et emmenée.
« C'est bon, » a dit le vieil homme. « Je vous le loue. »
Barberin a marchandé et ils sont tombés d'accord pour 40 francs par an.
« Et qu'allez-vous en faire ? Il fera partie de ma troupe, la troupe du Seigneur Vitalis. Elle est où, votre troupe ? En voici le premier membre. »
Le vieil homme a alors sorti de sous sa veste un animal étrange. Il portait une veste rouge à galons, et ses bras et ses jambes, c'était bien des bras et des jambes, étaient noirs.
« Oh, le vilain singe !» s'est exclamé Barberin. « Monsieur Jolicoeur, saluez, s'il vous plaît !»
Le singe nous a aussitôt envoyé un baiser du bout des doigts. Et maintenant, le signor Capi, le chef des chiens, va vous présenter ses amis. » À ces mots, un caniche blanc, coiffé d'un képi de police, s'est dressé sur ses pattes de derrière, a croisé celles de devant sur sa poitrine et a salué Vitalis si bas que son képi a touché le sol. Puis, il s'est tourné vers ses camarades et d'une patte leur a fait signe d'approcher. Les deux autres chiens se sont dressés à leur tour et, se tenant par la patte, ils ont avancé de trois pas et nous ont salués.
« Voici le signor Zerbino, le galant, et la signora Dolce, la douce. À présent, terminons notre affaire. Mais cet enfant devrait attendre dehors. »
J'ai attendu, le cœur serré. Plus tard, Barberin est sorti.
En route pour la maison.
J'allais donc rester avec Mère Barberin ?
Pas un mot de tout ça. Sinon, gare à toi.
À notre retour, j'ai voulu parler à Mère Barberin. Mais son mari est resté à la maison et le lendemain, lorsque je me suis réveillé, elle n'était pas là.
« Elle est au village !»
m'a dit Barberin. J'étais inquiet, et j'avais bien raison de l'être, car, vers midi, Vitalis est arrivé avec ses chiens. Voilà pourquoi Barberin avait envoyé sa femme au village. J'ai éclaté en sanglots.
« Monsieur, ne m'emmenez pas !»
Tu ne seras pas malheureux avec moi. Je ne bats pas les enfants, et mes chiens sont amusants. Pourquoi pleurer ?
Mère Barberin, Mère Barberin !
Barberin lui a tendu un sac avec mes affaires. Deux vieilles chemises et un pantalon usé. Vitalis a fait la grimace. Mais il lui a donné 8 pièces de 5 francs que Barberin s'est empressé de mettre dans sa poche. Vitalis a pris mon poignet.
« Allez, Rémi, prends ton sac, en route !»
Je pleurais, mais je n'avais pas d'autre choix que de marcher. Le chemin que nous suivions s'élevait le long de la montagne, et à mesure que nous montions, je voyais tout en bas la maison de Mère Barberin qui diminuait, diminuait. Soudain, avant que la maison ne disparaisse complètement, j'ai vu Mère Barberin qui entrait dans la cour. C'était elle, c'était sa jupe bleue. Elle est entrée pour ressortir aussitôt. Elle me cherchait. J'ai crié « Maman, maman !» Elle n'entendait pas. J'ai crié encore et encore.
« Pauvre enfant !» a dit Vitalis.
« J'ai voulu m'enfuir !»
Mais Vitalis a pris mon poignet
et Capi et Zerbino m'ont entouré. J'ai dû continuer. Mais j'ai vite compris qu'il n'était pas méchant. Un peu plus tard, il a lâché mon poignet.
« Tu es malheureux, et je le comprends. Mère Barberin était comme ta mère. Mais Barberin ne peut plus te nourrir. Il t'a confié à moi. C'est mieux que l'orphelinat. Réfléchis à cela. »
Il avait probablement raison. Mais l'idée d'être séparé de celle que j'aimais comme ma mère m'était insupportable. Nous marchions depuis longtemps. J'étais fatigué, mais n'osais pas demander qu'on s'arrête.
« Ce sont tes sabots qui te fatiguent. À Ussel, je t'achèterai des souliers, et aussi un pantalon, une veste et un chapeau. Allons, ne pleure plus !»
Nous traversions une lande monotone, quand il s'est mis à pleuvoir. Vitalis décida qu'il était temps de s'arrêter et un paysan nous a logés dans sa grange. Au souper, Vitalis nous a donné à chacun un morceau de pain. J'ai regretté encore plus Mère Barberin, sa soupe chaude, la cheminée, mon lit. Je m'enfonçais dans la paille, les yeux pleins de larmes, quand j'ai senti un souffle tiède sur mon visage. Capi s'était allongé contre moi et me léchait la main. Alors, j'ai oublié ma fatigue, mes chagrins. Je n'étais plus seul. J'avais un ami.